toutes les organisations devraient se poser quand ils amorcent une espèce de projet comme ça. C'est quoi notre but? C'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre avec ce retour-là? Est-ce que c'est pour rentabiliser des espaces de bureaux vides? Est-ce que c'est pour faire augmenter le sentiment d'engagement puis le sentiment d'esprit d'équipe?
Mm-hmm. Oui. Puis l'autre chose que je veux ajouter en lien avec ça, moi, Nicolas, c'est que la solution, elle ne doit pas forcément être à la grandeur de l'organisation. Il y a des organisations qui le font pour des raisons de culture organisationnelle, d'envoyer un message qui est clair pour parfois même par réflexe, là, comme je l'ai dit, en ressources humaines, de one size fit all qu'on a un peu facilement là, quand on fait de la gestion des ressources humaines dans le domaine.
Elle, c'est Audrey-Anne Tully de Cotteret, spécialiste en identité organisationnelle. Et lui, c'est Benjamin Lafrenière-Carrier, spécialiste en gestion de ressources humaines. Deux humains d'exception avec qui j'ai la chance de collaborer au jour le jour. Dans le cadre du balado de cette semaine, nous avons eu le plaisir de discuter de l'importance de bien planifier le retour en présentiel. On se pose souvent des questions quant aux approches à prendre, bonnes questions à se poser, aux essentiels qui devraient composer ce changement important dans la vie des travailleuses et des travailleurs. Après tout, la tendance marquée ces derniers temps pointe vers l'imposition d'un retour au bureau en présentiel, voire quelques jours par semaine jusqu'à un retour complet. D'ailleurs, même l'entreprise Zoom, qui nous a si bien accompagnés en temps de pandémie avec sa technologie de pointe en matière de rencontres à distance, a forcé le retour en présentiel de ses employés. Donc, de belles questions à se poser et surtout une belle discussion avec mes deux collègues. Bonne écoute.
Check 1, 2. Check, check, 1, 2. Bienvenue au balado, le temps d'une pause RH. Le meilleur balado sur la gestion des ressources humaines. Voici Nicolas Roy, chef de la direction chez EPSI. Nicolas, c'est à toi.
Donc aujourd'hui, en compagnie de mes collègues Audrey-Anne Tully de Cotteret et Benjamin Lafrenière-Carrier. Donc, bienvenue au temps d'une pause RH.
Merci.
Pour vous deux, c'est récurrent. On vous entend souvent sur le podcast, donc c'est le fun de vous revoir sur le podcast aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on a un sujet quand même d'actualité, surtout très, très intéressant, c'est qu'on va parler de retour au travail. Mais là, c'est un retour au travail un peu différent. Hein? Je pense qu'on a déjà fait un podcast sur le retour au travail, plus en période pandémique, mais maintenant, c'est qu'on sait que le monde du travail a été chamboulé, a été changé. Notre relation aussi comme travailleur par rapport au travail a aussi beaucoup évolué. Et là, plusieurs organisations avaient mis des beaux modèles en place pour le travail, mais on voit que c'est en train de changer, de se transformer encore. On voit des grands, grands joueurs qui ont décidé de forcer un retour, donc d'imposer un retour au travail en présentiel chez leur main-d'œuvre. Puis on avait le goût d'en jaser dans le podcast avec vous autres aujourd'hui. Puis je vous lance une première question, tout bonnement comme ça. Vous en pensez quoi de ce retour en présentiel-là, forcé et imposé?
C'est une sacrée bonne question, Nicolas. parce que c'est une question qui se veut simple puis qui est excessivement complexe quand on se met à la décortiquer. Quand on regarde le travail, là, il y a une dizaine d'années de ça, avant la pandémie, les choses étaient relativement simples. On avait un emploi, la plupart du temps, en très grande majorité, on se présentait à notre travail sur l'horaire qui était établi, on suivait la recette qui nous était un peu presque imposée par les ressources humaines. Puis là, ben, il y a deux choses qui ont changé depuis, je pense. De un, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est croissante, qui continue à faire son bout de chemin, là, dont on a déjà parlé à l'émission d'ailleurs, là, ou en tout cas, je vous ai déjà entendu en parler. Et puis de l'autre côté, ben, il y a des options qui se sont ouvertes avec cette histoire de pandémie-là parce que les gens ont été obligés de faire du télétravail pendant longtemps, ont été obligés d'adapter leurs horaires, au fait que les enfants étaient à la maison, au fait que finalement, les frontières entre le travail et la vie personnelle se sont effritées à bien des égards. Et là, aujourd'hui, ça ouvre des possibilités, puis ça ouvre un contexte où on veut tirer la couverte sur notre côté en termes d'attractivité, de retourner juste dans les vieilles approches, dans les vieilles méthodes d'il y a une dizaine d'années, sans y réfléchir, c'est pas une bonne option. Maintenant, est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels ça peut se prêter, ça peut être pertinent? Les décisions qui ont été prises dans les grandes organisations que tu as mentionnées n'ont pas été prises là, sur un coup de tête, sur un coup de dé, sur un coin de table, je ne crois pas. Maintenant, quelles sont les considérations au travail flexible, travail à distance, travail justement à la distance à la maison, travail sur un horaire qui est flexible, travail des 32, 40, 48 heures par semaine. Il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes.
Ouais. Audriane, t'en penses quoi un peu de cette situation-là?
Oui, bien, Benjamin, tu as mentionné que les salariés, les employés, les partenaires, les collaborateurs étaient habitués peut-être pré-pandémie à une recette imposée. Mais moi, j'ai l'impression que c'était en même temps une recette qui faisait du sens par rapport aux modalités du travail avant la pandémie. Donc, c'était presque naturel finalement. Bien, je m'en vais travailler, je m'en vais au bureau, puis il y avait très, très peu de personnes qui travaillaient à distance. Alors qu'aujourd'hui, on essaie de remettre en place ce genre de formule-là, mais est-ce qu'elle fait encore du sens? Puis ça, je pense que c'est une question que les organisations ne se posent pas nécessairement. Tu sais, on va être enclin à d'abord, bien, on va cibler des journées, puis on ne se pose pas les questions fondamentales qui sont d'abord, bien, c'est quoi qu'on recherche à faire avec le retour au travail des employés? Ça va être quoi notre objectif? Puis surtout, est-ce que ça fait du sens par rapport au mode de travail qui ont changé avec la pandémie? Donc, c'est un peu ça, là.
Ce que je trouve intéressant, bien, dans un premier temps, Benjamin, tu nous parles de pénurie de main-d'œuvre. Malgré la récession qui s'en vient ou l'instabilité ou l'incertitude économique, on sait qu'on va rester quand même dans un territoire de pénurie de main-d'œuvre pendant longtemps. Donc, ça force vraiment les modèles à se transformer puis à s'adapter. Puis, Audriane, ce que je retiens de ton commentaire, pour moi, je détecte un peu qu'il faut peut-être être un petit peu plus centré sur l'employé pour connaître ses préférences, ses intentions par rapport au travail, ce qu'il aimerait, comment lui ou elle aimerait que sa structure de travail ou que son horaire ou soit plus centré un peu sur ses besoins. Là, je ne me trompe pas. Là.
Bien, les besoins de l'employé, mais aussi les besoins de l'organisation,
c'est
pour différentes raisons. Fait qu'au niveau de l'employé, tu sais, c'est sûr que ben là, son confort a changé. Donc, c'est sûr que bon, il a pris confort dans un espace de travail au domicile, il a pris confort dans certaines habitudes, il a pris confort à plus se déplacer en voiture le matin, à avoir une flexibilité travail vie privée qui était peut-être plus attrayante. Mais je pense surtout au niveau de l'organisation, puis je lisais un article récemment qui mentionnait que des fois, un retour non réfléchi va faire perdre à l'organisation d'efficacité. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné en entrée de jeu, les modes de travail ont changé. Puis maintenant, on va peut-être se rencontrer davantage en Zoom, davantage en Teams, davantage de façon virtuelle. Est-ce que les espaces de travail sont optimales pour ça parce que c'est des rencontres qui sont différentes qu'on avait avant. Puis tu sais, juste le fait que l'employé se déplace avec son ordinateur, rebranche les choses, tu sais, peut-être que les espaces de travail sont plus nécessairement adaptés à ça. Puis je pense que ce qui est important, c'est d'identifier des tâches à valeur ajoutée en présentiel versus des tâches à valeur ajoutée à la maison. Plus, c'est un concept qui est différent de ce qu'on avait avant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Ben, moi, je pense que ce que tu mentionnes là, Audriane, là, puis ce qui a déjà été mentionné jusqu'ici dans l'émission, là, tout ça se retrouve à un seul et même endroit, c'est la description de tâche. Parce que quand on parle de qu'est-ce que l'entreprise a besoin de son employé, qu'est-ce que l'employé peut attendre de son entreprise, bien, il y a le contrat de travail puis la description de tâche qui rentre là-dedans. Puis je pense que de plus en plus, les modalités de travail vont être associés à cette description de tâche. D'avoir un réceptionniste qui est en travail à distance, ça a dans bien des cas absolument aucun bon sens. Le genre de travail qu'on a, toi et moi, Audriane, en consultation, ça se fait drôlement mieux. Donc ça, c'est une chose. Mais quand on ouvre cette porte-là, ben, on ouvre la porte à autre chose. On ouvre la porte à la notion d'équité entre les employés. Pourquoi est-ce que Monsieur X, qui est réceptionniste, est obligé de se présenter au bureau, de payer les frais de transport, de déplacement, de prendre de son temps personnel pour le faire, alors que le voisin à côté qui a un travail légèrement différent, lui, il n'est pas obligé de faire tout ça. Ça crée des réels enjeux d'équité à l'intérieur des organisations, des enjeux d'équité pour la prise de risque, pour d'autres types de domaines. Il y en a déjà eu. Puis où est-ce que ça a tout été géré? Dans la description de tâche. Moi, je pense que ça, c'est une pierre angulaire à laquelle il faut faire attention. Il va y en avoir des iniquités, mais ces iniquités-là peuvent être gérées pour que ce soit géré, pour que ce soit considéré comme acceptable par l'ensemble des gens. Puis ça, il ne faut pas l'échapper.
Ça, Benjamin, c'est un excellent point, mais pour moi, je comprends, on doit adapter, dans le fond, les descriptions de tâches de travail au nouveau mode de travail qui va être préconisé par une organisation X. Mais il faut quand même se positionner sur ce mode de travail-là. Donc, l'organisation X doit quand même définir, j'imagine, certaines balises ou paramètres qui vont un peu encadrer ce nouveau ou ces nouveaux modes de travail, hein, parce que des fois, les organisations ont plus qu'une façon d'opérer comme telle. Mais est-ce que celui-là devrait venir avant l'adaptation des descriptions de tâches?
C'est une sacrée bonne question, Nicolas, ça aussi. En fait, là, quand on pense aux modalités de travail et qu'on souhaite mettre une seule recette pour l'ensemble de l'organisation, bien, on est en train de perdre, justement, je pense, la flexibilité au niveau de ce qu'on va mettre dans ces conditions de travail spécifiques-là, dans ces descriptions de tâches-là. Et puis, le réflexe, il est tout à fait naturel, surtout en ressources humaines. On est géré par des lois du travail qui sont quand même relativement rigides, qui sont adaptés à un monde de travail en présentiel qui nous tire constamment dans cette direction-là. Ouais. Donc, le réflexe de dire on prend une recette, on l'applique à l'ensemble de l'organisation, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est très, très naturel pour les gestionnaires en ressources humaines. Est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus efficace? Ça, je pose la question.
Mm-hmm. Puis, parlant de ça, j'ai comme l'impression qu'on retourne à la première question que toutes les organisations devraient se poser quand ils amorcent une espèce de projet comme ça. C'est quoi notre but? C'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre avec ce retour-là? Est-ce que c'est pour rentabiliser des espaces de bureaux vides? Est-ce que c'est pour faire augmenter le sentiment d'engagement puis le sentiment d'esprit d'équipe? Puis si on prend l'espèce de balance d'une personne, on a deux extrémités, évidemment. D'un côté, on a son bien-être, ses besoins qui sont comblés avec l'espèce de flexibilité qu'elle a trouvée dans le cadre d'un travail qui est flexible, à distance, hybride. Puis de l'autre côté, on met l'organisation puis l'obligation de revenir pour un objectif qui est plus ou moins bien défini ou qui est peut-être plus ou moins bien communiqué, parce qu'il peut être bien défini, mais moins communiqué aussi. Fait que, est-ce que, ben là, il y a un débalancement aussi, tu sais, est-ce qu'on retrouve notre équilibre ou est-ce que là, l'objectif de l'organisation prend le dessus sur le besoin puis le bien-être des employés? Tu sais, je pense qu'il faut bien déterminer ça aussi.
Il y a une analyse qui doit se faire, Audrey-Anne, puis l'analyse, elle est juste, comme tu le mentionnes. Il ne faut pas oublier, par contre, que même du côté très, très flexible, il y a aussi des désavantages qui sont peut-être moins évidents, mais qui sont clairement existants. Je prends l'exemple là, du travail très flexible, pas trop d'horaires spécifiques établis. On est passé à 32 heures plutôt qu'à 40 heures par semaine, puis on travaille un peu de où on veut, il n'y a pas de problème. Mais ça, la recherche commence à montrer que ces habitudes-là, ces modes de fonctionnement-là qui étaient forcés pendant la pandémie, bien, il y a quand même des impacts négatifs à certains égards. Là, on va parler d'intensification du travail, on va parler de culture de « always on », pour prendre l'anglicisme, là, de gens qui ne sont pas capables de déconnecter. La recherche, même à certains égards, commence à faire la différence entre les gens qui sont toujours connectés et les gens qui se sentent obligés d'être toujours connectés. Donc, tout ça, il y a des considérations de ramener les gens, il y a des avantages, des désavantages, de leur laisser la flexibilité du nombre d'heures de travail, de la période de travail et de l'endroit pour travailler dans la semaine. Le fait de laisser cette flexibilité-là, les gens vont généralement l'apprécier, mais ça vient avec un coût qui n'est pas forcément là, à l'avant-plan de l'esprit des individus qui prennent ce choix-là. Personnellement, pour l'avoir vécu là, cet été, là, on nous a donné l'opportunité de faire du travail condensé à 32 heures plutôt qu'à 40 par semaine. Moi, la journée de plus que j'avais cet été, je l'ai beaucoup apprécié, mais il est clair que les mandats que j'avais réalisés, qu'il fallait que je réalise dans moins de temps, mais il y a une intensification du travail qui n'était pas forcément toujours bonne pour la santé psychologique à long terme. Là. C'est des choses que les individus ne vont pas toujours considérer, mais qui sont importantes quand on, si on veut prendre soin de notre main-d'œuvre. Puis ça, je sais que Nicolas, c'est un sujet qui t'est cher. Là,
c'est... Ce que tu me dis, Benjamin, ça me touche beaucoup. Je pense qu'il y a quand même quelques éléments qu'une organisation doit mettre en place quand on change un mode de travail. Tu parles de quand il y a une flexibilité extrême ou à tout de moins extrêmement flexible, disons-le comme ça. Je pense que l'organisation aussi, pour éviter de tomber dans certains des impacts plutôt négatif que tu as mentionné, doit prôner, par exemple, une culture de déconnexion, doit, dans le fond, s'assurer que les gens, ils comprennent que c'est pas c'est pas malsain, dans le fond, de pas être connecté. Au contraire, ces gens-là, ils vont être plus productifs quand ils sont. Ils doivent prendre ce temps-là pour eux, pour se reposer, pour être capable de se réénergiser, mais surtout pour faire d'autres choses que le travail, parce que clairement, ça peut devenir un enjeu. Puis ça, je le comprends très, très bien. Merci de nous rappeler ces éléments-là. Puis on a tourné un super podcast là-dessus, hein, sur le droit à la déconnexion avec notre collègue Annie Boilard. Pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas eu la chance de l'écouter, ben, je vous recommande de faire un petit retour en arrière puis d'aller écouter cet épisode-là. Mais ceci étant dit, je pense que ce que je retiens, c'est que peu importe une organisation, dans le fond, qui change les modalités du travail comme telle, doit prendre en considération ses besoins, donc les besoins organisationnels et les besoins de ses travailleurs. Puis tenter de trouver un juste milieu qui va permettre, dans le fond, de combler les besoins de tout le monde. C'est un peu ce que je comprends.
Oui, puis ça passe par deux choses. D'abord, la conversation avec les employés, les écouter, puis les entendre. Non seulement les écouter, mais aussi les entendre, puis considérer leurs besoins avec l'établissement d'une vision. Mais, puis je vais prendre exemple sur nous, pourquoi pas, mais c'est qu'on n'a pas obligé le retour. On a encouragé en mettant en place des espèces de le mercredi causerie, par exemple, où est-ce que tous les employés savent, le mercredi, tous mes collègues vont être au bureau. Si ça me tente d'y aller ce mercredi, j'y vais, puis si ça me tente moins, puis si j'ai d'autres rencontres ou d'autres tâches qui nécessitent que je sois peut-être plus concentrée ou à la maison, ben voilà. Mais au moins, c'est une suggestion qu'on leur offre et non pas une obligation qu'on leur exige.
Oui. Puis l'autre chose que je veux ajouter en lien avec ça, moi, Nicolas, c'est que la solution, elle ne doit pas forcément être à la grandeur de l'organisation. Il y a des organisations qui le font pour des raisons de culture organisationnelle, d'envoyer un message qui est clair pour, parfois même par réflexe, là, comme je l'ai dit, en ressources humaines, de one size fit all qu'on a un peu facilement là, quand on fait de la gestion des ressources humaines dans le domaine. Mais on n'est pas obligé de le faire comme ça. Puis c'est probablement en considérant les enjeux, les spécificités, peut-être au niveau des équipes, si on ne veut pas le faire au niveau individuel, qu'on va être capable d'avoir une approche qui va être mieux adaptée à chacun des contextes.
Oui, parce que je pense sincèrement que l'objectif, c'est ça. C'est une approche qui est adaptable par rapport au contexte dans lequel les organisations œuvrent, dans lequel les travailleurs et les travailleuses exercent leur métier et autres. Là. Fait que ça, je trouve ça bien. Puis moi, une chose que je privilégié, puis je trouve vraiment intéressant, c'est de provoquer ces moments-là où est-ce que les gens ils peuvent reconnecter ensemble dans le cadre du travail. Fait que moi, j'encourage vraiment les organisations à opter plutôt pour cette pratique-là qui augmente aussi le sentiment d'appartenance puis d'engagement quand les gens ont la chance, pas de façon obligatoire de revenir au bureau, mais quand on les encourage parce qu'il y a un événement, parce qu'on en crée un happening, parce qu'on crée quelque chose de gros. Donc, je trouve ça intéressant.
Puis finalement, tu sais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ce soit réfléchi, puis il faut que ça, faut que ça fasse du sens.
Me permets-tu le mot de la fin? Je me disais justement, ça commence à sentir la fin. Je disais, à l'intérieur de tout ça, là, le dernier message que j'aimerais lancer aux auditrices, aux auditeurs, là, c'est celui de la vigilance et de la prudence. Parce que malgré tout ça, là, ce sont des changements, des contextes pour lesquels on a relativement peu de connaissances, même au niveau scientifique. Là, c'est encore des sujets qui sont très peu étudiés. Quelles sont les conséquences réelles sur les individus, sur les organisations de toutes ces nouvelles façons d'organiser le travail? Moi, j'inviterais là, les gens qui nous écoutent à être vigilants à ces éléments-là, à y aller à la limite là, avec des essais, avec des projets pilotes, puis de voir ce que ça va donner à court, à moyen et à long terme, là, en n'ayant pas forcément peur de se tromper, parce qu'on est tous dans la même situation. Là. J'en connais pas, moi, d'organisations qui ont une expérience en modalité de travail flexible de 40 ans derrière la cravate. C'est nouveau. Donc, soyons vigilants, faisons attention à nous-mêmes, faisons attention à nos collaborateurs. Je pense que c'est le dernier message que je voudrais lancer.
Tout à fait.
Audrey-Anne, ça te convient comme mot de la fin? Moi, je trouve que c'est très sage. Oui,
t'embarques. J'embarque là-dedans.
Effectivement. Puis par vigilance et prudence, Benjamin, merci de nous rappeler qu'on a le droit à l'erreur, puis on a le droit aussi de tenter des choses justement dans une perspective où on veut s'améliorer comme être humain, mais aussi comme organisation. Donc, je trouve que c'était un message très fort que tu as envoyé à la fin à nos auditrices et nos auditeurs. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci, Nicolas.
Donc, Audrey-Anne et Benjamin, merci encore de votre passage au temps d'une pause RH. C'est toujours un plaisir.
On va revenir.
J'espère.
Bye-bye.
Mais je ne vous oblige pas.
Non!
Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Ben, ce que je retiens de l'épisode, c'est quelques concepts clés, dont notamment qu'il faut faire preuve de vigilance et de prudence lorsqu'il vient le temps de modifier les modes de travail des employés. Mais aussi l'importance d'arrimer les besoins organisationnels aux besoins individuels. On a vu aussi, avec mes deux collègues, l'importance de se poser les bonnes questions. Mais surtout, c'est quoi le véritable objectif derrière ce désir de vouloir amener les gens en présentiel? Finalement, le dernier élément que je retiens, c'est que c'est important de bien planifier, de communiquer ce changement-là parce qu'il y a un impact réel autant sur les organisations que sur les humains qui composent ces organisations-là. Donc, tenez-le pour dit. Je pense que c'est important de faire un bon travail de fond là-dessus, de prendre les bonnes décisions, mais surtout de bien les planifier et les communiquer. Pour en savoir plus sur le podcast, les émissions précédentes ou même sur le blog Pause RH, rendez-vous au www.poserh.ca. Sur ce, fidèles auditrices, auditeurs, je vous remercie et je vous dis à un autre Pause RH. Au plaisir.